Le polyamour s'est imposé à moi. À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, c'était il y a 10 ans. Et c'était surtout vu comme un truc un peu de baba cool. Des gens qui étaient dans des communautés, qui vivaient un petit peu, genre, il n'y avait pas de hiérarchie relationnelle. Je ne fais pas de prosélytisme, c'est très important pour moi. Je ne suis pas là à dire, moi j'ai raison avec mon mode de vie et vous avez tort si vous êtes monogame, ou vous êtes chiant, ou votre sexualité est chiante. Quand j'ai commencé à parler de polyamour, les gens sont venus me voir en me disant, mais comment tu peux aimer plusieurs personnes en même temps? Fatalement, ça veut dire que tu n'aimes pas ton mari, ou que tu l'aimes moins, et du coup, tu es en transition avant de le quitter. Vraiment, il y a ce truc de on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois de manière forte, intense. L'amour s'est multiplié, il ne s'est pas divisé. Et c'est pareil avec le polyamour.
Bon, ça, c'est typique des ressorts misogynes, je pense. C'est si une femme prend de la liberté dans sa façon de relationner, et notamment de la liberté sexuelle, hein, faut le dire, bon, l'homme en souffre. Je pense que moi, j'ai eu ce genre de discours aussi. Après, il y a un truc sur lequel je veux bien réagir, c'est ce côté, c'est une phase en attendant de quitter ton mari. J'ai envie de dire, c'est pas forcément une réalité, mais c'en est une aussi parfois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ne s'y retrouvent plus dans leur relation de couple et vont utiliser le polyamour comme porte d'entrée vers autre chose. Je vais pas faire du bien ou du c'est bien ou du c'est mal, je déteste ça. C'est plutôt comment le polyamour vient répondre à un besoin de s'extirper d'une situation. Et les gens vont peut-être rencontrer une situation future qui sera plus bénéfique pour eux. Et puis du coup, ils vont adhérer au polyamour. Et peut-être pas. Et peut-être qu'ils vont juste rencontrer une autre personne et se remettre dans un couple monogame. Mais l'idée du polyamour leur aura permis de sortir d'une relation qui ne leur va pas. Encore une fois, sans jugement de valeur par rapport à ces parcours-là.
Et puis ça leur aura peut-être permis aussi de poser des bases différentes avec leur prochaine relation.
Exactement.
En fait, rien que s'interroger et de questionner la relation dans laquelle on est pour évoluer différemment, c'est déjà très intéressant.
Ouais, je pense qu'il y a une différence entre commencer une relation polyamoureuse, en fait, de manière un peu éclairée, le début de quelque chose, et réfléchir à cette forme-là relationnelle après 15 ans de couple, 3 enfants. Enfin, après l'essor des sites de rencontres, j'ai l'impression que ça va avec ce courant-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, je me lance là-dessus. Mais...
Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées en même temps. C'est qu'avec Internet et les applications, mais aussi les réseaux sociaux, on a eu la possibilité de parler de plus de sujets, de trouver des ressources, de se regrouper aussi en termes d'affinités. Ça vaut pour le polyamour, comme ça vaut pour n'importe quel loisir. De trouver des gens qui se disaient « moi, je suis tout seul dans mon coin à penser ça ». Puis en fait, on n'est pas tout seul. Et on peut réfléchir ensemble, on peut créer des nouveaux modèles ensemble, on peut théoriser ensemble, créer des outils, un peu comme ce qu'on fait nous avec l'association également. Et se dire « mais en fait, on n'est pas des ovnis et des gens déviants tout seuls dans nos coins ». Il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, qui aiment au pluriel, et pour qui ça marche. Donc c'est-à-dire que peut-être que c'est possible, peut-être qu'on peut créer des belles choses, et des applis de rencontre qui permettent en fait de mettre cette finesse dans les modes relationnels, permettent de dire moi je relationne comme ça, ou j'ai envie de relationner comme ça, et en fait d'en faire un peu un non-sujet, c'est mis à côté de ton prénom et de ton âge. En fait, tu veux une relation monogame ou libre ou polyamoureuse. Ça dédramatise aussi, ça donne l'information et ça permet une entrée en relation, un contact éclairé sur moi j'arrive avec tel mode de relation, à prendre ou à laisser et ça revient sur ce qu'on disait au début, sur la transparence et le consentement.
Ça, c'est pour la mise en relation, du coup, entre deux personnes qui auraient un mode relationnel proche. Et ça n'est pas source, ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est le même modèle relationnel que c'est compatible, en fait, parce qu'il y a tellement de possibilités. Après, sur l'ouverture du couple, que je pense que c'est un autre sujet quelque part, enfin, même si ça se croise. Sur l'ouverture du couple, je pense qu'il y a beaucoup à en dire, à la fois de notre société et des individus. Moi, je suis assez surpris par l'ampleur que ça prend et sur le fait que ce soit beaucoup les femmes qui demandent des ouvertures de couple. Je pense que derrière, ça vient aussi avec une critique du couple monogame, hétéro, enfermant, et du coup, une volonté de faire autrement. Moi, je crois pas très fort, même si, évidemment, là, c'est un discours que j'ai là et que j'aurais pas dans d'autres contextes, mais j'y crois pas trop à « on va sauver le couple par le polyamour ». Ça, je pense que c'est bancal. Il vaut peut-être mieux se dire « en fait, je fais le deuil de ce que je connais et je vais vers autre chose ». Mais le couple qui va mal et qui s'ouvre pour aller mieux, j'y crois moyen.
Voilà. Pour moi, c'est un peu la même chose qu'on va faire un bébé. Pour
c'est ce que j'allais dire.
C'est pas un bon projet.
Parce que c'est challengeant, le polyamour, quand même. Parfois, voilà.
Oui. Faut du temps et de l'énergie.
L'imaginaire sexuel, c'est un terme qu'on entend et parfois on se dit « je connais ce terme-là ». Mais en fait, c'est pas clair. C'est quoi l'imaginaire sexuel? C'est très vaste. Ça peut être toute production mentale, des pensées, des scénarios qui va augmenter ou déclencher une petite excitation, une petite envie. Et on est souvent à se dire « on n'a pas d'imaginaire sexuel ». Non, moi j'en ai pas. Mais si, on en a tous. Et parfois, on l'inhibe complètement pour plein de raisons socioculturelles. Parce que actuellement, surtout quand on est une femme, on inhibe beaucoup ses pensées sexuelles. Et puis ça peut être aussi parce qu'on n'a pas conscience, tout simplement, on va les trier, on va les mettre de côté. Et donc c'est très important, et ça peut être un travail vraiment intéressant, de déclencher, de retravailler, et de prendre conscience qu'on a cet imaginaire sexuel.
Plusieurs fois, le mot « besoin » a été utilisé. C'est vrai que c'est un truc qui m'interroge, je sais pas trop où le placer. Pareil, « besoin », il y a un truc que moi je ramène, un truc peut-être de besoin un peu primaire, peut-être que c'est pas cette notion-là hein, qui rentre, tu vois. Gêne un peu, quoi.
Je pense que la définition des besoins et des limites, c'est un peu... En effet, c'est pas très proche du milieu politique. Je pense que c'est des notions qui sont assez éloignées du milieu politique. C'est peut-être pour ça que toi, ça te parle pas énormément. Plein d'autres milieux, donc milieu sexpo, BDSM, polia, etc. On en vient vraiment à ça. Et du coup, il y a un concept derrière qui s'appelle l'agentivité. Et on parle aussi d'agentivité sexuelle. C'est-à-dire, c'est revenir à soi, comment je me perçois dans mon corps, etc. Est-ce que j'arrive à percevoir mes émotions? Donc déjà, ça, il y a plein de gens pour qui c'est pas simple.
Charmant.
Et ensuite, qu'est-ce que je désire? Mais en plus, se poser la question de mes désirs, donc de quoi ils sont nourris, donc des influences, etc.
Construire.
Mais qu'est-ce que moi, au fond de moi, j'ai envie? Est-ce que je suis capable de le voir? Et est-ce que je suis capable de le verbaliser? Donc la dernière sphère, c'est la communication. Et ce concept d'agentivité, je pense qu'il est très important et que finalement les groupes qui font qui ont des manières de relationner différentes, c'est un levier de transformation de soi vers cette agentivité. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a quand même cette volonté. Et donc le fait de définir ses besoins, ça, en effet, les humains, donc il y a Maslow qui a théorisé ça avec une liste des besoins humains fondamentaux. Et donc bien sûr, il y a tout ce qui est lié à la survie, mais après il y a aussi des besoins spirituels et des besoins de contact. L'être humain est un être sociable. Et en fait, toute notre biochimie même interne est liée au fait d'être en connexion les uns avec les autres. Et si on veut se rapprocher d'un point de vue plus politique, l'entraide de Kropotkin, je pense, qui est très intéressante sur le fait qu'on est une société sociable, et donc on a besoin les uns les unes des autres pour notre fonctionnement. Par exemple, les jeunes enfants, donc ça c'est... Bref, c'est ce qui a été fait d'horrible pendant la guerre notamment, mais les jeunes enfants, s'ils n'ont pas des soins, du contact humain, ils meurent. Et en fait, c'est aussi pareil pour les autres humains. Donc il y a vraiment ce truc de lien et de besoins fondamentaux. Et donc on vient y répondre et par soi et par le lien.
Bah, par exemple, là, le besoin de communauté, c'est quelque chose qui se fait sentir, notamment sur les groupes marginalisés. Et nous, bah, l'association est née quand même de ça, d'avoir un besoin de se retrouver entre personnes qui vivent des expériences similaires.
Dans les besoins fondamentaux humains, par exemple, il y a le besoin de liberté, le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance. Enfin, en fait, tout ça, en fait, c'est fondamental.
Et quand tu le ramènes à ta relation, pouvoir exprimer tes besoins, c'est aussi être capable de dire, ben voilà, moi, pour me sentir aimée, pour me sentir reconnue dans une relation, j'ai besoin de telle ou telle chose. Est-ce que tu peux me les apporter? Comment tu peux me les apporter? Comment je peux comprendre? Comment toi, tu vas me montrer que tu m'aimes et comment moi, je peux le comprendre aussi? C'est en fait toutes ces discussions qu'il faudrait arriver à avoir le plus... avec le plus de transparence possible. C'est ce qui permet d'avoir des relations les plus saines aussi, et bah, les plus douces, et ce qui évite de mal se comprendre.
Sur l'idée aussi de verbaliser, pour les hommes cis, souvent on dit que c'est difficile pour eux d'exprimer leurs sentiments, par exemple, alors que là, on ne parle que de dialogue. Comment faire ?
Une thérapie ? Vous savez que vous n'êtes pas aidé, les hommes cis-hêtres, là-dessus, parce que vous n'êtes pas dans un système qui encourage à l'introspection, à la connaissance de vos émotions, au partage de vos émotions.
Vulnérabilité.
Et à la vulnérabilité qui va avec. Mais en fait, à un moment, si on veut être bien envers, avec soi-même déjà, et être bien avec des autres, avec les autres, si on veut avoir des relations épanouissantes, bah, faut apprendre à se connecter à ses émotions, à les comprendre et à les exprimer d'une manière qui soit pas la violence, la colère. Parce que sinon, en fait, on est... De l'extérieur, on est vu comme quelqu'un avec la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Et en fait, vous avez des émotions, vous savez pas quoi en faire. Enfin, je veux dire, ça peut pas marcher. Enfin, l'amour, c'est de l'échange et de la communication. Ça peut pas être du conflit et des émotions non gérées. Autant je peux supporter un enfant qui sait pas gérer ses émotions, un homme adulte, en fait...
C'est la même chose, hein, parfois.
Ouais, mais justement, en fait, en tant que femme adulte, éduquer un enfant, ça me semble normal, que ce soit mon enfant ou pas. En fait, notre travail en tant qu'adulte, c'est d'amener les enfants à gérer leurs émotions, les comprendre, et pouvoir en faire quelque chose pour être bien avec. J'estime que mes partenaires, hommes ou femmes, sont mes égaux et mes égales. J'ai pas à leur apprendre des choses qu'on est censé apprendre quand on est enfant. Et donc, je pense que les hommes devraient se prendre en charge sur leur santé mentale, sur leur gestion de leurs émotions, sur leur vie intérieure, en fait. S'autoriser à en avoir une, et se dire, je suis pas... C'est pas parce que je ne montre rien que je suis fort, au contraire.
Et du coup, ça pose la question de la charge. Donc, qui prend en charge dans les duos hétéros entre un homme et une femme
C'est pas pour rien que ce sont les femmes qui demandent le divorce. C'est pas pour rien que ce sont les femmes qui demandent les ouvertures de couple aussi en majorité. Parce qu'elles font le travail émotionnel. Parce qu'elles portent les relations quand elles sont avec un homme. Et ça pèse.
Je pense que c'est ça. C'est que la liberté que permet les relations plurielles font que... Peut-être y a un peu moins ce truc de bon en fait je vais tout faire, on parle toujours de charge émotionnelle, je vais tout faire et puis bon bah c'est comme ça. Il y a vraiment ce truc de bon tu veux, t'as envie, tu te mets au travail ou alors ciao bye bye quoi.
Bah, surtout quand la femme du duo avec un homme a elle aussi d'autres relations amoureuses.
Oui.
Alors, on peut pas faire le travail émotionnel de 2, 3, 4 relations, enfin, je veux dire. Quand est-ce qu'on vit, quand est-ce qu'on existe, quand est-ce qu'on va au travail, quand est-ce qu'on dort.
Voilà, bah, ça permet de décaler un peu cette séance émotion que je voulais pas non plus trop insistante sur les hommes cis. C'est une petite pause musicale, forte à propos avec l'absuceur. C'est le bienvenu.
Suce ton pote, pour faire preuve d'amitié, suce ton pote. Vas-y, suce ton pote, trois mois que t'as paniqué, suce ton pote. Vas-y, suce ton pote. Si ça me fait quitter, suce ton pote. C'est ton ami, suce ton pote. Cadeau d'anniv, suce ton pote. Suce ton pote. Pour faire preuve d'amitié, suce ton pote. Vas-y, suce ton pote. Trois mois de panique, suce ton pote. Vas-y, suce ton pote. Si ça me fait quitter, suce ton pote. C'est ton ami, suce ton pote. Cadeau d'anniv, suce ton pote. Tout le monde peut devenir mon pote du soir. Je fais un trou dans la porte des chiottes du bar. Capote fluo sort du noir. Sabre laser, George Lucas. C'est l'absuceur, sur la piste de danse, c'est l'absuceur.
Salut, c'est moi.
C'est l'absuceur, tu me dises de danse, c'est l'absuceur. Un autre verre d'alcool resserre la cup. Giga golf face au DJ en débardeur. Résultat, le videur te pète la gueule. Fallait pas faire l'hélicoptère avec ta queue. Ouais, ce soir c'était pas super. Vomis sur la piste à cause de l'abus de bière. T'as pas ken depuis 3 mois, ce soir t'aurais voulu le faire. Donc plutôt que de rentrer seul en Uber. Suce ton pote, pour faire preuve d'amitié, suce ton pote. Vas-y, suce ton pote. 3 mois que t'as paniqué, suce ton pote. Vas-y, suce ton pote. Si ça me fait quitter, suce ton pote. C'est ton ami, suce ton pote. Cadeau d'anniv, suce ton pote. Poco, Porto, Poco. Soirée, Bobo, Polo, Poco. Soto, prise de judo. Danse du robot sous les projos. Déjà l'heure d'aller, Toto. La soirée se finit trop tôt. Au lieu de finir solo, suce ton poteau, méno, homo. Suce ton pote, pour faire preuve d'amitié, suce ton pote. Vas-y, suce ton pote.